Alors, donc, moi, dans ce projet, l'un des éléments sur lesquels je voudrais, je pense, insister, c'est que cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est global, qui inscrit la question de la France-Afrique dans la longue durée, puisque si effectivement nous partons grosso modo des années 40, nous remontons quand même au 19e siècle. Et nous y remontons notamment pour inscrire des éléments qui correspondent aux fondamentaux dont a parlé Thomas, c'est-à-dire l'idéologie, le système et les résistances. En gros, le logiciel de la France-Afrique. Pour montrer que ce logiciel-là, il a une histoire, donc une histoire de la France-Afrique, qu'il a des mécanismes, qu'il a des rouages, qu'il a des noms sans visage. Et figures sans nom, et qu'ils se recomposent. La France-Afrique n'est pas morte avec Foccart, n'est pas morte avec De Gaulle, n'est pas morte avec Mitterrand. Elle est vraiment un système qui joue sur des camouflages, sur des recompositions, sur des séductions, sur des répressions, et en même temps sur des retournements de résistance qui font que parfois contester la France-Afrique fait partie aussi de la France-Afrique. On le voit aujourd'hui avec un certain nombre de dirigeants africains totalement acquis au néocolonialisme et qui, lorsqu'ils sont en difficulté, prennent des airs de grands combattants de la France-Afrique. Je peux citer Idriss Déby notamment et bien d'autres. Et donc cette dimension de longue durée, elle est importante justement pour traiter des questions d'actualité, pour montrer que les mécanismes en cours ne sont pas nouveaux. Les mécanismes en cours s'inscrivent dans une idéologie, un système qui a déjà été pensé précédemment. Et l'un des éléments que nous montrons justement en remontant avant 1940, c'est de démontrer que la décolonisation a été quelque part pensée en même temps que la colonisation. On colonise dans le but que lorsque l'on va décoloniser, on reste encore présent. Et c'est en cela que la question de l'idéologie est fondamentale, parce que l'idéologie, c'est ce qui imprègne un mécanisme de domination, c'est ce qui reste même quand on est parti. Et c'est ce qui fait que ceux qu'on a dominés, on arrive quelque part à souhaiter eux-mêmes leur propre domination. Et donc l'idéologie centrale de la France-Afrique, c'est la question du racisme. C'est le racisme construit au XIXe siècle, dans un contexte bien particulier qui fait suite effectivement à la traite. Donc la France a été, dans le cadre de son premier empire, une puissance esclavagiste, une puissance négrière, qui avait ce premier empire dans les Amériques. Et qu'il a perdu notamment dans le contexte de la révolution haïtienne. Et cette révolution haïtienne a eu un impact, puisqu'il s'agit aussi d'une défaite militaire, et elle va impulser la naissance d'un second empire qui réactualise quelque part le premier empire, puisque aujourd'hui la France reste une puissance coloniale, et nous faisons des liens avec la Polynésie, avec la Kanaky, avec évidemment Mayotte, les îles Éparses dans l'ouvrage, pour montrer qu'il y a une continuité de cette question coloniale qui, quelque part, se superpose à la question néocoloniale. Et ça, c'est un élément, je pense, qui est assez intéressant dans l'ouvrage. On le montre vraiment tout au long de l'ouvrage à travers un certain nombre de fils rouges. La question du racisme, elle est théorisée par des intellectuels français en grande partie et appliquée par des militaires français, donc Faidherbe, Lyautey, Gallieni, de diverses manières, dans le cadre de la mise en place d'administrations coloniales, de gestion des populations, non pas des peuples, mais des populations, et donc d'infériorisation des Africains, qui va être appuyée par l'anthropologie coloniale, qui va être appuyée par un certain nombre de discours qui vont construire aussi le sentiment français, la nation française, et qui vont projeter cette image de la plus grande France, et donc quelque part de la grandeur française. Et ce sont des éléments qui sont très importants à souligner parce que ces mécanismes-là vont rester présents et vont être des fondements de tout ce qui relèvera de la guerre contre-subversive. Et donc, dans l'ouvrage, dans les premières parties, nous montrons véritablement comment ce système de domination s'est construit autour des différentes conquêtes, donc les cœurs, les corps, les âmes, et comment donc ces mécanismes-là vont instaurer cette France-Afrique, avant même que le terme n'apparaisse, dans le sens d'un couple entre la France et les colonies africaines. Un couple, mais qui est dans une relation asymétrique, qui est dans une relation de dépendance, où on se pose la question de qui dépend de qui, et qui est aussi dans une relation, de fidélité et d'infidélité. Et c'est cette dimension qui est extrêmement intéressante et actuelle, parce qu'elle renvoie à un comportement qui est constant dans la politique française, qui est celle du paternalisme. Un élément que nous évoquons à différents moments de l'ouvrage, et dont l'un des moments de rupture est notamment la position d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, et dans la contestation de la part d'un certain nombre d'élites qui ont été formées par ce système français, qui vont se retourner contre ce même système. C'est-à-dire que des élites africaines ont été formées dans ce système pour le servir, et d'autres en sont sorties pour opposer une contestation. Donc le paternalisme fait justement partie de ces éléments qui sont au cœur de la contestation et en même temps au cœur même de l'idéologie. Un autre élément également dans cette approche, c'est cette idée de vouloir se faire aimer des Africains. C'est quelque chose qui est constant dans les rapports de mission des administrateurs coloniaux. Il faut que les Africains nous aiment. Il faut qu'on se fasse aimer des Africains. Qu'on impose finalement cet amour de la France dans le cœur des Africains. Qui est quelque chose qui rejaillit aujourd'hui dans cette incapacité de la France, enfin, de l'Élysée, à comprendre la contestation et à lire la contestation africaine à travers cette histoire du sentiment anti-français. Ils ne nous aiment plus. Ils sont devenus infidèles. Ils préfèrent se tourner vers d'autres acteurs. Alors que nous avons toujours été là pour eux, nous leur avons tout apporté, mais que n'avons-nous pas fait pour qu'ils nous trahissent de cette sorte-là? Et donc ce sentiment, il s'inscrit quelque part vraiment dans le contexte de la production de ce qu'on appelle aussi la colonialité. Donc l'idéologie, le racisme. Le deuxième élément sur lequel va s'appuyer cette idéologie, c'est effectivement un système de domination qui là aussi va se camoufler sous des mécanismes de coopération. Donc il s'agit d'apporter la civilisation, mais pas trop, parce qu'on n'a pas les moyens d'apporter réellement cette civilisation, et ce n'est pas l'objectif de la colonisation. Donc il faut apporter quelque chose, mais pas trop. Et donc il faut sélectionner des élites qui vont devenir les courroies de transmission de cette domination. Donc introduire la domination dans, finalement, le paradigme du dominé lui-même. Et donc il s'agit de produire, quelque part, les futures élites africaines, dictatoriales et autoritaires, qui reprendront le relais une fois la colonisation, non pas terminée, mais mise en parenthèse ou en pointillé. L'autre élément dans ce rapport de domination et de coopération sont bien évidemment les éléments tangibles, bon, qui sont relativement connus, c'est-à-dire les différents accords de coopération imposés au moment des indépendances, qui font que les indépendances reproduisent une continuité de la domination. Donc les accords militaires, donc la question des bases militaires qui a été brièvement évoqué, qui fait aujourd'hui l'actualité au niveau du Sahel et qui renvoie finalement à cet espace de l'Afrique vu comme l'espace de projection militaire de l'Europe et de la France en particulier, la dimension économique avec le franc CFA, dont on montre justement dans l'ouvrage que la contestation ne date pas des dernières années, mais que déjà dans les années 70, il y avait eu des contestations, même dès l'indépendance avec le Mali, par exemple, qui en était sorti, et le cas de Madagascar. On montre qu'il y a eu cette fronde dans les années 70 des chefs d'État africains, dont beaucoup étaient inféodés à Paris. On peut citer Niasingbe Yadema, on peut citer Marianne Gwabi ou d'autres, qui réclamaient tout simplement non pas une rupture de ce système du franc CFA, mais une africanisation de ce système-là. Et évidemment, Paris s'est frotté les mains et au début des années 70, on a africanisé le mécanisme du franc CFA en mettant des gouverneurs africains, en mettant en place les banques centrales, etc. Et donc c'est aujourd'hui cette africanisation de ce système-là qui est contestée par les populations à l'encontre des dirigeants dont les prédécesseurs, donc les dirigeants précédents, avaient validé cette évolution, cette africanisation du mécanisme monétaire. C'est également la question effectivement de la coopération qui a été aussi évoquée à travers le papier de Claire Kosker. Les multinationales, donc notamment Bolloré donc avec Olivier Lamongin, et puis aussi la francophonie, avec aussi donc un certain nombre d'allusions à cette francophonie. On en montre les préliminaires dès le 19e siècle, avec cette idée que derrière la langue, c'est vraiment toute une conception, toute une manière de penser et toute une manière de conquérir justement les valeurs et les modes de vie des populations africaines et donc des futures élites africaines, qu'on montre vraiment dans l'introduction, dans les premières parties, qui fait écho à des parties, enfin à des chapitres qui sont dans la sixième partie, où on évoque notamment par exemple la question de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA, où on montre que pour la France, introduire le droit français dans les mécanismes économiques et monétaires ou commerciaux africains est une manière aussi de gagner des parts de marché. On montre également avec l'article de Kalidouci la question par exemple de la francophonie, ou avec l'épilogue de Yala Kisukidi, mais la question justement mémorielle qui montre que les points relatifs au passé sont parfois beaucoup plus brûlants que l'actualité. Et c'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est-à-dire que dans les premières parties, on montre vraiment les prolégomènes de quelque chose qui éclate aujourd'hui, mais qui en réalité est constamment présent dans les mécanismes de reconversion de la France-Afrique du point de l'idéologie et du point du système qui est mis en place et qui se déploie et qui se dédouble au fur et à mesure de l'évolution de la politique française et du positionnement de la France vis-à-vis d'autres acteurs qui sont présents sur le continent africain. Par exemple, on montre comment la France s'introduit au niveau du Zaïre, du temps de Mobutu, et s'introduit également au niveau de l'Afrique du Sud de l'apartheid à travers la question notamment énergétique, qui est un élément central de la France-Afrique. Et donc, cette domination qui repose donc sur ces différents accords va être constitutive de la forme des États africains tels qu'ils existent aujourd'hui et tels qu'ils sont amputés d'une grande partie de leur souveraineté. Et donc, pour comprendre la crise des États africains, leur incapacité à avancer, on a des réponses précisément dans les mécanismes de la France-Afrique. L'une de ces réponses, par exemple, c'est la manière dont les États africains, au moment des indépendances, donc certains adoptaient effectivement le drapeau français, la Marseillaise, ou avaient des armées produites qui étaient des produits de la colonisation française, et des dirigeants qui étaient pour la plupart socialisés en France, puisque c'était les anciens députés de la 4e République, qui se sont retrouvés à la tête de leurs États, avec vraiment l'assentiment de Focard et de Gaulle. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où on avait des élites politiques qui n'avaient aucun capital économique, à l'exception de Félix Houphouët-Boigny, et qui n'avaient également aucune expérience militaire. Et donc on a des États africains qui sont nés dans un contexte où on a calqué le modèle de la France, où il y avait une dissociation relative à l'époque entre le politique et le militaire, et on a mis en place un système qui a favorisé précisément, dans les années 60, la politisation du militaire et la militarisation du politique. Ce qui explique l'évolution de la plupart des régimes africains qui s'autocratisent dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui, où on voit des coups d'État qui apparaissent et qui, dans certains cas, paraissent finalement beaucoup plus démocratiques que des élections. Et donc ce système mis en place à la tête des États africains va susciter, et là c'est le troisième élément, donc après l'idéologie, après le système, ben ce sont des résistances. Donc idéologie, système, résistance. Donc c'est vraiment une approche de causalité qui n'est pas, je dirais, consécutive, mais qui se fait à chaque génération. Elle se fait à chaque génération, et le personnage structurant de cette réflexion sur le lien entre idéologie, système et résistance, il est évoqué dans l'un des encadrés d'ailleurs que j'ai écrit, qui est Frantz Fanon, qui pense réellement le contexte de la décolonisation et de la mise en place du néocolonialisme avec l'intériorisation de ces dominations par les colonisés eux-mêmes. Ce qui explique et ce qui facilite le maintien du système de la France-Afrique. Et dans ce papier sur Frantz Fanon, il y a effectivement cette référence où il cite De Gaulle, qui dit qu'il faut décoloniser à toute vitesse. Il faut en fait prendre de vitesse les Africains pour que cette indépendance, cette décolonisation leur soit donnée, mais sous la forme quelque part d'un cadeau empoisonné. Et donc on est vraiment, je dirais, dans cette logique d'un appareil qui est confié, donné aux Africains, mais qui en soi est totalement inopérant pour répondre aux priorités des populations. Et ces priorités vont être incarnées par des résistances qui là aussi s'inscrivent dans la longue durée. Donc d'abord les premières résistances évidemment donc à la colonisation qui amène donc Gallieni à produire la politique des races, Faidherbe à mettre en place les tirailleurs sénégalais ou d'autres instruments de coercition, Lyoté à penser le modèle du protectorat vis-à-vis notamment du Maroc en estimant que finalement c'est bien de laisser aux Africains leurs propres autocrates et de diriger à travers donc leur dictateur. Donc c'est déjà quelque chose qui est pensé dès les années 10, 20, 30 et qui va être ensuite appliqué par la suite et qui se fait en parallèle du modèle de colonisation britannique. Avec toujours cette idée que finalement, les Britanniques colonisent mieux que nous, mais en même temps, etc., tout ça. Et donc, ces logiques de résistance à la colonisation vont faire l'objet de répressions. Répression coloniale, répression intracoloniale. Donc, il est évidemment question du massacre de Tiaroy et de tout ce qu'il représente aujourd'hui comme bombe à retardement dans les fameuses relations cordiales entre la France et le Sénégal, avec le dessert pour les soldats sénégalais. Et on voit bien qu'ils n'ont pas eu de dessert du tout dans ce contexte-là. On a aussi, dans cette logique de répression, donc toutes les répressions effectivement, qui ont eu lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont notamment celles qui ont servi à retourner le RDA de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'on montre comment on a isolé un leader de sa masse et comment on a joué la répression, l'intimidation, pour faciliter finalement l'éclatement de quelques blocs africains que ce soit. Et ça aussi, c'est des éléments qui montrent comment se met en place aussi une géopolitique africaine et comment, donc c'est notamment le papier de Jean-Pierre Batte, comment ben, quelqu'un comme Houphouët-Boigny va devenir le bras droit de la politique africaine en France tout en jouant sa propre géopolitique pour faire de la Côte d'Ivoire une petite puissance régionale. Ce qui explique aujourd'hui la problématique Ouattara ou la problématique ivoirienne au niveau de la CDAO. Donc ces résistances, ces répressions vont produire par la suite une autre confrontation entre justement ces élites traditionnelles qui ont été créées dans le contexte de la colonisation et des élites modernes qui, elles, vont être socialisées en France à différents niveaux, donc les élites politiques, donc les députés, donc qui sont élus par les peuples en Afrique, mais qui siègent au Palais Bourbon, donc qui sont quelque part déconnectés de leur base sociale, parce qu'elles sont socialisées dans un espace qui est exogène, à la différence des leaders de l'Afrique anglophone, qui, eux, se battaient politiquement en Afrique. Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, etc., ils se battaient au Kenya, au Ghana, etc. Et donc, du coup, ils étaient vraiment en lien avec les luttes populaires de leur peuple, de leur territoire. Alors que dans le contexte de ces élites politiques françaises, elles étaient totalement exfiltrées, finalement, de leur espace social. Et elles ont été francisées, elles ont pris un certain nombre de valeurs propres à la France. Au niveau intermédiaire, on a également, donc c'est l'article coécrit avec Ghislain Chuisseux, c'est la question des corps intermédiaires, donc les gendarmes, les militaires, les écoles d'administrateurs, etc., qui vont, dans les décennies 60, surpasser les élites politiques. Donc on montre le cas de Bokassa, le cas d'un certain nombre d'hommes qui ont été formés dans le contexte de l'armée française dans les années 50, ou dans les écoles militaires, et qui sont formés en parallèle des dirigeants politiques, et qui dans les années 60 vont être aussi utilisés pour renverser les dirigeants politiques et installer des régimes militaires, qui sont bonnet blanc, blanc bonnet, avec le néocolonialisme politique. Et donc on montre comment tout cela se construit et comment, de l'autre côté, ben, des élites de résistance se mettent en place autour de réseaux culturels comme Présence africaine avec donc Aimé Césaire, autour également de résistance de terrain, donc le cas de l'UPC. On montre aussi que le cas d'un pays comme le Niger est très intéressant parce que dans l'imaginaire, on pense que la Guinée, du fait du nom de Sékou Touré, était la plus avancée dans l'opposition au projet de communauté. Et on montre justement comment un pays comme le Niger avait aussi une certaine conception de la souveraineté et de l'unité africaine et comment dans le cas du Niger, mais avant même l'indépendance, dans le cas du référendum, mais la France a truqué les élections. Et ça permet aussi de relativiser, de montrer qu'il y a eu des élections en Afrique avant les dites indépendances et que les peuples n'étaient pas à infantiliser. Ils avaient une conscience politique, ils avaient une capacité à poser un certain nombre de débats. Et ils avaient aussi autour d'eux des dirigeants, des mouvements qui traduisaient leurs aspirations. Et donc, une des confrontations également qui apparaît à ce moment-là, une des résistances systémiques, donc c'est celle aussi du panafricanisme, qui a aussi fait écho évidemment avec l'actualité et qui, au moment donc, des indépendances, était défendue par un certain nombre de leaders africains qui, pour la plupart, vont faire l'objet de féroces répressions. Et donc on voit que cette question-là aujourd'hui est toujours plus que jamais d'actualité. Alors ces élites modernes africaines qui vont se retrouver à la tête donc, des États vont se retrouver ensuite en confrontation avec leur propre population et avec aussi des élites contestataires exilées, Donc notamment comment dire, les figures intellectuelles, Mangold Bétty, Mehdi Ondo, on montre comment le cinéma, comment la littérature, comment cette production culturelle, comment cette résistance intellectuelle s'est aussi construite en opposition à quelque chose qui est sous-jacent à la fois à l'idéologie, au système et aux répressions, c'est-à-dire le soft power français. Et cette question du soft power, c'est-à-dire de la manière de contraindre, de dominer par quelque part l'assentiment de ceux qui sont dominés, c'est quelque chose qui est en train d'être, je pense, au cœur du projet de reconquête mis en place par Emmanuel Macron. On est vraiment sur des logiques de conquête et de reconquête. Et dans ces logiques-là, la résistance de la France-Afrique aux résistances africaines est, je pense, quelque chose qui est intéressant à mettre en avant. Parce qu'on a le sentiment à plusieurs moments que le vent est en train de tourner. Il y a eu des failles dans ce système de la France-Afrique. On a notamment le cas de Thomas Sankara qui est évidemment évoqué. Puis on a eu d'autres formes de résistance, notamment dans les années 90, 2000, bah, les citoyens, Printemps des peuples, etc., qu'on évoque dans le livre. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une ouverture qui se fait, eh bien, il y a comme un jeu de dominos qui se met en place et ce système-là se recompose. Et donc là, l'enjeu ou l'intérêt de ce livre, c'est précisément de réactualiser cette problématique de la France-Afrique, cette longue histoire de la France-Afrique, cette longue durée de la France-Afrique, et d'interroger finalement quels sont ces éléments de mutation et comment précisément couper ces éléments de la manière la plus radicale possible. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage, donc les notions autour de l'idéologie, du système et des résistances. Donc je vais m'arrêter là, puis je pense qu'on pourra intervenir ou préciser d'autres points selon vos questions. Merci.
Merci aux deux intervenants. C'est pas évident, j'imagine, de résumer 1000 pages en 20 minutes. S'il y a des points précis que vous souhaitez aborder, je pense que c'est le moment. Donc n'hésitez pas, levez la main. Pour ce qui est du micro, si vous êtes en capacité de venir à la tribune,